des événements bien connus, et même si la majorité d'entre vous pourrait m'en donner la substance très intime, je vous invite à en faire la lecture. Alors on pourrait choisir n'importe quel évangile, puisque cet événement est rapporté dans les quatre évangiles, mais nous nous porterons ce matin nos regards dans l'évangile de Matthieu, à partir dans le chapitre 3, nous lirons à partir du verset 13 et nous poursuivrons notre lecture jusqu'au chapitre 4, le verset 11. Matthieu 3, 13. Alors, Jésus vint de Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta ensuite dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Deux événements importants qui marquent le début du ministère de Jésus. Son baptême, tout d'abord. Et tout d'abord, le temps et les circonstances. Donc, un baptême qui nous est rapporté dans les quatre évangiles. Marc et Luc sont relativement brefs. Le récit du baptême de Jésus dans ces deux évangiles sont assez courts. L'apôtre Jean, lui, retrace cet événement en se référant à Jean-Baptiste, ce précurseur de Jésus, qui annonçait la venue du Fils de Dieu. Matthieu, lui, et on vient d'en lire le récit, est celui qui s'étend le plus en donnant des détails sur ce qui s'est réellement passé le jour où Jésus est venu à la rencontre de Jean-Baptiste près du Jourdain. Quand est-ce que Jésus arrive près de Jean-Baptiste? Eh bien, aucun événement n'a eu lieu avant. Jésus arrive près du Jourdain seul. Il n'a pas encore fait le choix de ses disciples. Il commence véritablement son ministère public en se promenant dans les contrées de Galilée, de Judée, dans tout le territoire d'Israël. Et en ce lieu, il arrive à la rencontre de Jean-Baptiste, qui annonce un message très fort que nous lisons au début du chapitre 3 et dont je vous fais le récit très bref. Jean-Baptiste disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et au verset 5, nous lisons « Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain. » Matthieu nous dit que Jésus est venu dans les environs du Jourdain uniquement pour se faire baptiser par Jean-Baptiste. Quand j'ai lu cela, je me suis posé une question. Pourquoi ? Pourquoi Jésus s'est-il fait baptiser ? À première vue, cela surprend, cela étonne, cela choque. Comment le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, cet homme saint, juste, sans péché, peut-il accepter de se tourner vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser par lui, alors qu'il nous est dit que le baptême que prêchait Jean-Baptiste était un baptême de repentance ? Jésus n'avait pas besoin de se repentir. Il était juste. La Bible ne nous donne aucune indication sur les relations liant à ce moment-là Jésus à Jean-Baptiste. Vous savez, comme moi, que ces deux hommes étaient l'un et l'autre cousins. Ils avaient sans aucun doute vécu avec une certaine proximité pendant leur enfance, leur adolescence, et s'étaient totalement perdus de vue. Jésus était à Nazareth. Jean avait commencé son ministère et il nous est dit qu'il se trouvait dans la région du Jourdain. Sans aucun doute, Jean-Baptiste ne reconnaissait peut-être plus Jésus. Mais il en avait tellement entendu parler, non seulement de par sa mère, mais de par les écrits bibliques. Et il savait qu'il était lui l'envoyé, celui qui était venu en tant que précurseur, qu'il n'a pas eu besoin de demander à Jésus qui il était. Au contraire, il lui dit, mais tu n'as pas besoin d'être baptisé, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Verset 14. Alors revenons à la question, pourquoi ? Pourquoi ? Pas besoin de confession de péché, pas besoin de repentance de la part de Jésus. La réponse, on la trouve dans une toute petite phrase que Jésus lui-même prononce. Il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Quelques suggestions de ces paroles. La première, et c'est celle qui m'est venue à l'esprit en lisant ce texte, c'est qu'en se faisant baptiser, Jésus approuve le ministère de Jean-Baptiste et ce qu'il fait. Jean-Baptiste fait ce qui est bien, il le fait selon les commandements qu'il a reçus de Dieu. Et en se faisant baptiser par ce précurseur, Jésus signifie que Jean-Baptiste est celui qui est venu préparer son chemin. Amener ses auditeurs à réfléchir sur leur profondeur de vie, sur leur péché, sur la nécessité d'une confession des péchés et d'une repentance. Jésus approuve le ministère de Jean-Baptiste. Et remarquez que dès que Jésus a prononcé cette parole, il nous est dit que Jean-Baptiste ne lui résista plus et qu'il accepta de baptiser Jésus. Mais on peut aussi faire une autre suggestion, une autre éventualité. Jésus est au tout début de son ministère de prophète, de sacrificateur et de roi. C'est pour cela qu'il est venu. Or, selon l'Ancien Testament, et un texte que je vous invite à relire chez vous dans le livre de l'Exode, au chapitre 29, les versets 4 à 7, selon le rite israélite acceptait du temps de Aaron, tout souverain sacrificateur devait être publiquement consacré lorsqu'il débutait un nouveau ministère, lorsqu'il prenait une nouvelle charge. Ainsi, on peut considérer que le baptême de Jésus aurait inauguré son ministère de médiateur entre Dieu et les hommes. Et je dirais que, en acceptant d'être baptisé, il confirme ainsi qu'il est bien celui que Dieu envoie pour réconcilier le peuple, réconcilier tout homme pécheur avec Dieu. Et d'ailleurs, cette éventualité que j'ai évoquée avec vous se trouve confirmée d'une certaine manière par cette parole que nous trouvons dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, versets 33 et 34. C'est une parole qui est prononcée par Jean-Baptiste. « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Voilà donc un deuxième argument, début d'un ministère bien particulier de sacrificateur, de roi, de prophète. Troisième argument qui a poussé Jésus à se faire baptiser du baptême de Jean. Elle apparaît dans la nature même du baptême, un baptême de repentance. Alors vous allez me dire, tout à l'heure nous disions que pour Jésus, ça n'avait aucun sens. Oui. Mais en se soumettant à ce baptême, Jésus montre que lui, le Fils de Dieu, venu ici en tant qu'homme, s'est identifié. Identifié à nous. Il est homme, il est saint, il est juste, mais il s'est identifié à nous. Il a pris notre forme, notre condition humaine pour vivre comme nous, en connaissant, et nous le verrons tout à l'heure, les mêmes difficultés que nous, faim, soif, tentation. Il va bientôt commencer un ministère bien plus extraordinaire que celui de Jean-Baptiste, mais entre ces deux hommes existe, dans le ministère de l'un et de l'autre, un lien très fort. Nécessité d'une repentance, mais annonce également d'un même royaume. Un même royaume à venir que l'un et l'autre, par leur ministère, vont annoncer et pour Jésus inaugurer. Ils sont serviteurs du même Dieu. Certains de nos jours aimeraient creuser un fossé entre l'Ancien et le Nouveau Testament pour dire que Dieu, celui de l'Ancien Testament, n'est pas le Dieu du Nouveau. Lorsque Jésus vient auprès de Jean pour se faire baptiser, il montre qu'il y a une continuité entre Jean-Baptiste, le dernier des prophètes de l'Ancien Testament, et lui, Jésus, le premier prophète de la Nouvelle Alliance. À travers son baptême, Jésus prêche donc en sa personne l'identification, la doctrine de l'identification que nous trouvons dans bien d'autres textes des évangiles de la Bible. Deux textes, Ésaïe 53:12 ou 2 Corinthiens 5:21 que je vous lis. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous venions en lui justice de Dieu. Enfin, une dernière possibilité de la nécessité de ce baptême de Jésus, il aurait accompli par ce baptême ce qui est juste dans la perspective de sa mort et de sa résurrection. D'ailleurs, Jésus lui-même, dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, verset 38, nous dit que sa mort est une préfiguration du baptême. Voilà donc pour la nécessité et le pourquoi pour lequel Jésus a accepté de venir près de Jean-Baptiste pour être baptisé par lui. Et tout de suite après, un événement extraordinaire se passe. qui est comme une confirmation de la vocation de Jésus. Il nous est dit, au moment où Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, le ciel s'ouvre et l'Esprit de Dieu descend sur lui comme une colombe. Et une voix proclame, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Verset 17. Ou encore dans Luc 3, 22, « Tu es mon Fils, désigné personnellement, tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Cela confirme donc ces paroles que nous avons lues tout à l'heure dans l'évangile de Jean, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Par ces paroles, le Père montre qu'il approuve complètement ce que son Fils vient de faire. Lors de son baptême, Jésus, le Messie, est mis à part pour un service, un ministère public qu'il va commencer très rapidement. C'est donc qu'on peut dire le baptême de Jésus qui est le début de ce ministère. Alors au passage, notons qu'ici la présence de l'Esprit est différente de ce qu'elle était dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, nous avons déjà vu la présence de l'Esprit. Mais l'Esprit descendait sur une ou l'autre personne pour un temps. L'Esprit descend ici sur le Fils de Dieu pour toute sa vie. Et cet accomplissement va inaugurer aussi quelque chose que Jésus rappellera peu de temps avant sa mort, à la fin de son ministère, à ses disciples, lorsqu'il leur dira, quelque temps avant sa mort, « Je vous enverrai un autre Consolateur qui demeurera éternellement avec vous. » Voilà pour le baptême du Seigneur. Qu'est-ce que nous voyons ensuite ? Tout de suite après ce baptême, tout de suite après cet événement extraordinaire, une situation pas grotesque, mais que l'on ne comprend pas. Jésus va être tenté, mis à l'épreuve. Et il nous est dit que c'est Dieu qui va mettre son Fils à l'épreuve en l'envoyant dans le désert. Certes, il va être tenté par le diable, mais c'est Dieu qui le met à l'épreuve. Ça nous rappelle que quand nous sommes devenus enfants de Dieu, quand nous avons été baptisés, si nous l'avons été, l'adversaire, le même que celui qui va intervenir là, le rusé, le diable, est prompt à nous tenter, à nous dire, oh, ce que tu as vécu là, c'est rien, tu t'imagines. Jésus va être tenté. Il va d'abord être 40 jours sans manger et boire. On a bien du mal à faire un jeûne de 24 heures. On a bien du mal, et c'est mauvais pour la santé, de rester 3 jours sans manger et boire. Jésus est resté 40 jours dans le désert, sans prendre ni nourriture ni boisson. Avant d'analyser chacune de ces tentations de manière individuelle, j'aimerais dégager globalement une chose que rapporte Luc, c'est que Jésus-Christ, que rapporte Matthieu, pardon, c'est que Jésus-Christ, au cours des différentes tentations auxquelles le diable va le soumettre, va se référer en tout et pour tout à la parole de Dieu, en utilisant des paroles que nous trouvons dans le livre du Deutéronome au chapitre 6 et 8. Ces chapitres qui nous parlent du peuple d'Israël et de leur séjour au désert pendant 40 ans. Dans ce désert, Dieu les a éprouvés. Ils n'ont pas très bien réussi cette épreuve, le moins que l'on puisse dire. Ils vont en conséquence errer pendant 40 années dans ce désert, cause de leur rébellion et de leur désobéissance. Et Moïse va leur communiquer une loi, des textes. Et Jésus nous est-il dit qu'il passe 40 jours dans le désert, qu'il symbolise les 40 ans du peuple d'Israël dans le désert du Sinaï. Mais là où le peuple a péché, là où le peuple s'est rebellé contre Dieu, là où le peuple a dit « mais on n'en veut pas de ce pays que tu nous proposes », c'est ce que les espions, après leur séjour en Canaan, ont rapporté. « Retournons en Égypte, on y était mieux !» Alors que le peuple a péché, Jésus, lui, va rester pur, saint, sans commettre en quoi que ce soit le péché. Alors, certains diront, certes, Jésus a vaincu, mais il était Dieu. Il est évident qu'il ne pouvait pas agir autrement. Mais Dieu était dans la personne de Jésus. Il était Dieu. Mais Jésus était homme. Dans une humanité parfaite. Mais dans le désert, il a été soumis à des événements exactement comme nous pourrions les subir. Et il ne s'est pas détourné du tout de la voie qui lui avait été donnée par le Père. Israël a échoué parce qu'il a négligé la parole de Dieu. Il a attristé l'esprit. Il a été égoïste en ne pensant qu'à lui. L'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus a affronté la tentation en tant qu'homme. Et je lis ce texte, Hébreux 4, 15, « Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Jésus, dans le désert, a montré une connaissance parfaite des Écritures, mais également une obéissance parfaite à la volonté de son Père. Regardons maintenant de plus près les épreuves qu'il a dû subir. Première tentation, la faim, ou comment répondre à des besoins physiques. 40 jours de jeûne, il nous a dit qu'après 40 jours, il eut faim. Quelle résistance! Il est affaibli, sans aucun doute amaigri, faible, et le tentateur vient près de lui. Si tu es le Fils de Dieu, lui dit-il, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Mais c'est aussi un texte des Écritures. La ruse de l'adversaire. Je ne sais pas si l'on peut imaginer la lutte intérieure de Jésus, affamé par 40 jours de jeûne, en faisant ce que Satan demandait. La tentation à laquelle Jésus, s'il y avait succombé, aurait montré c'est qu'il était bien le Fils de Dieu. Avec un tel miracle, il en aurait la preuve. La tentation de pourvoir à ses propres besoins était là. Mais en agissant ainsi, si Jésus avait cédé, il aurait fait sa propre volonté et non pas celle du Père. Il n'aurait pas agi comme le Père l'aurait voulu. Jésus n'avait pas besoin de savoir qu'il était Dieu. Il l'avait entendu. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Voilà pourquoi Jésus répond à Satan en citant cette parole de Deutéronome 8, verset 3. « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le pain donc n'est pas la chose essentielle. Et Jésus, donc, tout au long des 3 années de son ministère, le rappellera. « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Le pain n'est pas la chose essentielle. La parole de Dieu l'est de manière beaucoup plus importante. Et d'ailleurs, dans l'évangile de Jean, Jésus nous dit « ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Première leçon pour nous à retenir de cette première tentation, c'est que l'obéissance est la plus importante des choses que nous devons accomplir dans notre vie chrétienne, obéissance à la parole. Comme je le disais tout à l'heure, chercher premièrement le royaume de Dieu. Deuxième tentation, accomplir un acte extraordinaire qui a pour cadre le temple de Jérusalem. Un acte extraordinaire, comme certains d'entre nous aiment bien en accomplir, pour éblouir, épater les foules ou ceux qui sont autour de nous. Et là encore, le diable, avec sa ruse habituelle, cite un texte que nous trouvons dans le psaume 91. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Le but de la tentation, c'était ni plus ni moins, comme je le citais, de créer, d'organiser un grand spectacle, comme si Jésus voulait subjuguer la foule et gagner son admiration. Remarquez que tout au long des années de son ministère, Jésus n'a jamais, jamais voulu agir de cette manière. Certes, s'il avait fait cela, après un aussi grand miracle, Jésus aurait sans aucune difficulté peut-être réussi à construire un royaume terrestre, à attirer du monde, à déclencher peut-être même une révolution, comme certains en Israël le souhaitaient, amener, pourquoi pas, la chute de l'Empire romain. D'ailleurs, c'est ce que la majorité des Juifs attendait. Non. Sa relation avec Dieu, si Jésus avait cédé, aurait été dévalorisée. Tout le monde aurait cru qu'il était le Messie, mais à quel prix ? Là encore, c'est une question d'obéissance. Le prix à payer, sans aucun doute, pour Jésus, était bien plus grand que celui-là. En réalité, cette tentation, elle touche au cœur même de la relation entre Dieu et son Fils. Jésus nous le manifeste dans sa réponse. Il est aussi écrit « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu ». Deutéronome 6, 16. Le Messie, Jésus, cet homme que nous voyons, que nous découvrons dans ce récit, vivait dans une relation de confiance, une relation d'amour parfaite avec son Père. Une communion intime qui n'avait pas besoin d'être éprouvée par une telle chute du haut du temple pour manifester sa seigneurie et le fait qu'il était Dieu. Demander un miracle, comme la protection d'une armée d'anges, aurait mis Dieu à l'épreuve dans une situation où une réponse beaucoup plus facile de la part de Jésus, et c'est celle qu'il va donner, était de ne pas sauter. Deuxième tentation, nous pouvons là et encore tirer une leçon. Avons-nous vraiment confiance en Dieu ? Le reconnaissons-nous comme notre Seigneur, comme notre Dieu ? Comme le créateur de l'univers, et lui faisons-nous confiance sans avoir besoin de lui demander encore et encore et encore, comme Israël dans le désert, des preuves de sa présence à nos côtés. Croyons-nous que tout ce qui est écrit dans la Bible a notre sujet, à savoir qu'il ne nous abandonnerait pas, quelles que soient les circonstances, était une parole vraie. Ou au contraire, demandons-nous sans cesse que Dieu fasse quelque chose d'extraordinaire dans nos vies pour lui dire « Si tu accomplis cela, je te suivrai ». Prenons l'exemple sur Jésus, qui a mis toute sa confiance et sa fidélité dans Dieu, son Père, celui pour qui il était venu accomplir une œuvre extraordinaire. Troisième tentation, peut-être la moins subtile de toutes. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Cette tentation, elle remettait ni plus ni moins en question le but de la venue de Jésus dans le monde, qui nous est rappelé dans les paroles de Luc, chapitre 19, verset 10. « Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » C'est là le but de sa vie. L'apôtre Jean nous dit que Satan est le prince de ce monde, Jean 16. Avec un tel titre, il se proposait d'offrir ni plus ni moins à Jésus tous les royaumes du monde. Mais Jésus, il est venu pas pour recevoir ces royaumes en héritage. Il sait qu'il les aura un jour, lors de son retour, lors de l'instauration d'une nouvelle vie pour tous, d'une nouvelle cité, d'une nouvelle Jérusalem. Jésus est venu pour combattre et à terme détruire l'adversaire. Comme Jean nous le dit dans son épître, la première épître, le Fils de Dieu est venu ou apparu afin de détruire les œuvres du diable. Il est venu pour gagner tous les royaumes du monde. Il n'est pas venu pour qu'on les lui donne. Le psaume 2, verset 8 nous dit « Je publierai le décret. » C'est de Jésus dont il est parlé. « L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » C'est Dieu qui allait donner tout cela à Jésus une fois que son ministère aurait été accompli jusqu'au bout. Ce n'est pas le diable qui peut les lui donner et Jésus ne le voulait pas. Le diable, vous voyez la ruse qu'il a. Il tente Jésus par un moyen plus facile. La gloire et la puissance, maintenant, directement, plutôt qu'après des souffrances et une vie difficile. C'est un raccourci du ministère de Jésus. Le diable agit ainsi pour éviter la croix, parce qu'il sait, l'adversaire, que la croix, c'est sa fin, c'est sa mort, décrétée et définitive, même si ce n'est qu'au jour du retour du Seigneur qu'elle sera effective. Jésus ne va pas se compromettre. Le chemin de l'obéissance, pour lui, va passer par 3 années de souffrance. Son ministère n'a pas été facile. Il a été pourchassé, opprimé, rejeté par les siens. Cloué sur une croix par les siens, pour nous. Il ira jusqu'au bout. La bataille sera gagnée pour lui, mais pas au prix d'une dérision que l'adversaire lui propose. Prosterner et adorer l'adversaire. Là encore, Jésus répond par une parole du Deutéronome, chapitre 6, verset 13. « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'après ces 3 épreuves, très dures, 40 jours de diète et d'absence de boisson et de faim, Jésus dit « Retire-toi, Satan. » En d'autres termes, « Va-t'en, je ne te supporte plus. » La lutte n'est pas encore finie. Jésus va encore devoir livrer maintes batailles. Mais il nous est dit, et c'est Luc qui le dit, « Le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment plus favorable. » Ce qui montre que tout au long de son ministère, Jésus a d'autres reprises pour être tenté. Et il le sera. Mais ce texte que nous venons de méditer nous montre que Christ, parce qu'il est le seul homme qui n'a jamais cédé à la tentation, est le seul homme qui connaît vraiment ce qu'est la tentation pour nous. Il sait ce à quoi nous sommes exposés lorsque l'adversaire nous attaque. Pour nous, la tentation n'arrive pas qu'une fois dans notre vie. Elle est continue. C'est une guerre dans laquelle nous devoir lutter jusqu'au retour du Seigneur. Alors il est vrai qu'on ne sera jamais confronté à la tentation de Jésus de changer les pierres en pain. Nous ne saurions d'ailleurs pas comment faire. Mais je peux être tenté chaque jour de la vie à vouloir me débrouiller seul, sans Dieu, en suivant ma propre volonté. Il est peu probable que l'un ou l'autre d'entre vous envisage un jour de sauter du haut d'un grand bâtiment pour faire du spectacle. Je crois que nous serions conscients que la chute serait irrémédiable. Mais je peux être tenté d'essayer de forcer la main de Dieu pour qu'il satisfasse quelques-uns de mes désirs. Ça n'aurait été que cela pour le Seigneur. Comment agissons-nous ? Enfin, il est peu probable que nous soyons amenés à nous prosterner devant le diable pour recevoir tout ce qu'il promet, pour tenter de gagner le monde. Mais combien d'entre nous peuvent être tentés de se compromettre pour tirer des bénéfices de certaines situations, à court ou à long terme, dans nos vies? L'exemple du Seigneur est un exemple remarquable. En conclusion, j'aimerais rappeler que pour surmonter ces épreuves, Jésus s'est confié totalement à Dieu. Que pour cela, il s'est servi de la parole de Dieu. Rien de plus spirituel que cela. C'est aussi là un enseignement. Cette parole de Dieu que Jésus a utilisée, elle est aussi à notre disposition. Mais pour pouvoir résister à chaque tentation que l'adversaire nous proposera, nous devons lire sa parole, la méditer, la retenir, même si parfois nous nous demandons pourquoi il faut lire tel ou tel passage. Un travail ardu et difficile pour lire et comprendre la Bible. Mais l'exemple de Jésus qui avait une connaissance parfaite des Écritures nous montre que c'est utile, nécessaire, indispensable. Puisse Dieu nous donner de connaître la vérité, de connaître sa parole, de la mettre en pratique, de faire comme le Seigneur tout au long de ses tentations dans le désert, de se soumettre parfaitement à Dieu dans une parfaite obéissance. Cela pour la seule gloire de son nom. Amen.